il loge un peu tout le monde hein, dans la forêt. Et en fait, vu qu'ils font tout le temps des trous et qu'ils sont tout le temps avec
une sorte de... Ils tapent la tête contre le mur, quoi.
Ils tapent la tête. Et donc, comment ils se protègent? En fait, leur langue, réellement, elle fait le tour de leur tête. Et il y a un liquide aussi qui va permettre d'atténuer en fait les secousses et donc de se protéger tout au long de leur vie.
Ça veut dire qu'ils tapent la langue tirée?
Non, mais ils gardent la langue comme ça, mais ils tapent comme ça, et du coup, tout le liquide et la langue vont protéger des secousses. Non.
Alors les auditeurs n'ont pas vu, mais ils viennent nous mimer le pivet.
Ah bah nous, on a tout compris. Hein.
Nous, on a tout compris. C'est par l'intérieur qu'il enroule la langue.
C'est ça. En fait, la langue, en fait, elle passe. Elle passe
tout le tour du crâne.
Elle fait tout le tour, ouais, c'est ça. On pourrait vous envoyer une photo si vous voulez, cher
Dylan. Dylan en train de le mimer.
Mais du coup, oui, en fait, elle fait tout le tour directement. Il n'a pas besoin de faire quoi que ce soit. En fait, naturellement, c'est déjà comme ça.
C'est comme ça, ouais, exactement. Ce qui protège
la tête et qui peut permettre de faire beaucoup de trous, quoi.
Ouais, parce que finalement, on se dit, ah, c'est chouette et tout, mais cet oiseau se tape la tête contre un tronc d'arbre toute la journée, quoi.
Exactement. Et les meilleurs, si vous voulez. Si les Ébrouissiens, voire les Rouennais veulent découvrir des pics, allez-y le matin, entre 8h et 10h, là c'est top pour les entendre. Et ils sont facilement entendables, on va dire. Leurs cris, on les connaît bien quand même.
Voilà, c'est à repérer. Est-ce qu'on arrive à les voir du coup quand même dans la forêt ou c'est plus compliqué?
Il faut prendre un peu plus de temps. Là, il faut vraiment prendre son temps, écouter, se poser un petit peu, se mettre sur des espaces où on n'a pas tout le monde qui passe, des enfants, des vélos et tout ça, et il faut attendre. Et là, on va les entendre souvent taper. Là, j'ai des idées de forêts qui pourraient permettre d'entendre tout ça. Il y a le bois de la Ronce à Jouy-sur-Eure ou Fontaine-sous-Jouy. Il y a la bois de Saint-Michel que j'ai dit tout à l'heure et la forêt de la Madeleine. Là, c'est sûr qu'on entendra du pic.
On va conclure cette émission rapidement, mais je voulais absolument avoir Didier quand même avant de nous quitter. On va essayer de le rappeler. Entre deux, je vous envoie un court extrait, on l'entendra pas jusqu'au bout, de Yamé. Le titre c'est Ne reviens pas. Il est tout frais, il est sorti cette nuit on écoute sur les plateformes. On le retrouvera sur Ça sonne à la porte, Yamé, et on revient tout de suite après cet extrait.
C'est pas ça qui m'importe. Fuck, j'ai beaucoup de problèmes en tête. Donc, pour elle, j'ai plus la force. Du coup, on s'éloigne encore. De fou qui crie dans la part. Je m'en fous, moi je claque la porte. Si tu t'en vas, cette peine ne revient plus. Ça fait bien trop de fois.
Voilà, petit extrait de Yamé que vous retrouverez sur le festival Ça sonne à la porte, ce qui m'a permis de faire la transition avec Didier. Bonjour Didier, militant chez Amnesty International, antenne ébrouissienne. Comment vas-tu Didier?
Ça va. Bonjour JC, bonjour à tout le monde.
Alors Didier, on va faire très très vite, mais en fait il était prévu il y a quelques temps la projection d'un film Tout va bien au cinéma d'Evreux. Pas de bol, vous n'aviez pas changé les piles du projecteur, en tout cas une coupure de courant vous a empêché la projection. Vous avez changé les piles du projecteur, c'est ce soir au Ciné-Pâté. En quelques mots, de quoi parlons-nous avec le film Tout va bien?
Alors c'est un film documentaire qui n'est jamais passé à Évreux, qui s'appelle donc Tout va bien. C'est tout n'allait pas bien à la première projection de 7 avril, mais bon, c'était pas de notre faute. Et donc c'est un film qui parle de l'arrivée de la vie de mineurs isolés en France qui viennent de différents pays et qui sont arrivés en France après avoir traversé mer, désert, enfin tous les parcours très compliqués que l'on connaît. Et le film en fait a été tourné sur plusieurs années, et ce qui se caractéristique, c'est qu'en fait il donne la parole à ces jeunes sur leur arrivée en France, leur installation, enfin, etc., et les difficultés qu'ils rencontrent, au-delà de tous les préjugés, de tous les a priori sur les jeunes immigrés égales les jeunes délinquants, etc., tout ce qu'on peut entendre, et sur toutes les propos racistes à leur égard. Le film s'attache beaucoup plus à leurs paroles qu'à tout ce qu'il y a autour, en fait.
sera suivi par un débat avec animé par notamment les camarades de RESF, le réseau d'éducation sans frontières, pour pouvoir échanger à la sortie du film.
Tout à fait. Effectivement, donc la projection débat est suivie par un débat qu'on va co-animer avec nos amis du réseau Éducation sans frontières qui sont au niveau local très très au courant puisqu'ils font beaucoup de dossiers effectivement de suivi sur ces jeunes étrangers isolés qui arrivent effectivement dans notre ville. Donc ils sont très 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 performants si je puis dire sur la question. Donc c'est pour ça qu'on les a invités avec grand plaisir à participer au débat.
Ce sera ce soir, le jeudi 7 mai à 19h15 au Ciné Pâté d'Evreux avec un prix à l'entrée à 9 euros et la possibilité de rencontrer les militants de chez Amnesty et de RESF. Didier, je ne vais pas faire plus, je suis désolé mais on a pris un peu de retard.
Je comprends bien, effectivement. Bonne journée à tout le monde.
Eh bien, bonne journée à toi aussi. Voilà, on poursuit, on termine avec notre ami Dylan Anorato qui est chargé de mission sur la valorisation du plan nature. Il te reste, tu sais, comme dans les trucs, quelques secondes pour nous donner une dernière info.
La dernière info, c'est profiter réellement de tout le programme Découvrir la nature dans l'heure, mais aussi de toutes les fêtes. Il y a la fête des plantes à Évreux ce week-end. Il y a Tous dehors aussi qui aura lieu à Pause. Tous ces événements-là, il faut y aller et vous découvrir encore plus de choses. Dehors.
Eh ben merci beaucoup Dylan, merci So également. Nous on n'a plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Restez à l'écoute de nos programmes parce qu'ils sont cool.
Tout leur matériel leur sert à se mettre sur la même longueur d'onde que les gens qui écoutent cette fréquence. Il ne reste donc plus qu'une solution. Il faut dénouer.
Bonjour et bienvenue. 10h TU midi ici à Paris, le journal sur RFI. Dans l'actualité, Marco Rubio reçu au Vatican par Léon XIV, opération déminage pour le secrétaire d'État après les violentes critiques de Donald Trump contre le pape américain, des critiques liées à l'offensive américaine contre l'Iran. Donald Trump juge maintenant très possible un accord de paix avec Téhéran. Des élections locales se tiennent aujourd'hui au Royaume-Uni où l'impopulaire Premier ministre Keir Starmer est menacé d'un vote sanction. Dans l'Atlantique, le paquebot touché par un foyer d'antivirus fait route vers l'archipel espagnol des Canaries où il est attendu samedi. L'évacuation des passagers, elle est prévue en début de semaine prochaine. Football, Paris Saint-Germain contre Arsenal, c'est donc l'affiche de la finale de la Ligue des Champions le 30 mai à Budapest. Vainqueur en demi du Bayern de Munich, Paris partira favori. Le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, est donc reçu aujourd'hui au Vatican. Le secrétaire d'État l'affirme, son voyage de 2 jours en Italie était prévu bien avant la crise qui a éclaté entre Donald Trump et Léon XIV. Cette crise est née de l'opposition du pape à l'opération militaire américaine en Iran. Aujourd'hui, Marine de la Moissonnière, la visite de Marco Rubio tombe à point nommé pour tenter de recoller les morceaux.
Le très catholique Marco Rubio aux côtés du premier pape américain de l'histoire, la photo fera sans doute le tour des réseaux sociaux. Cette image de la réconciliation, Donald Trump en a besoin. Ses attaques répétées contre Léon XIV lui ont causé du tort, notamment au sein de son électorat catholique. Blandine Chélini-Pont, professeure d'histoire et de relations internationales à l'université d'Aix-Marseille.
Ça a scandalisé beaucoup de gens. Il y a une crise de confiance, une crise de légitimité, une crise de leadership, les mid-term en perspective. Donc tout ceci est calculé, bien sûr.
Sur le fond, la discussion devrait vite tourner au dialogue de sourds, chacun devrait camper sur ses positions, même si Marco Rubio pourrait ne pas être totalement indifférent aux arguments du Vatican.
Du côté du Saint-Siège, c'est vraiment une occasion de dire clairement encore une fois les choses, sans les caméras, à quelqu'un qui est susceptible de l'entendre en fait. Et avoir peut-être la possibilité de creuser l'écart qu'on connaît entre l'équipe Trump en général et ce secrétaire d'État qui n'est pas exactement dans la ligne trumpiste et qui a sa propre carrière politique.
Marco Rubio tentera également de faire la paix avec Giorgia Meloni, la première ministre italienne que Donald Trump avait vivement critiquée lorsqu'elle avait pris la défense du pape.
Marco Rubio est arrivé ce matin au Vatican pour rencontrer Léon XIV. Il s'entretiendra également avec le numéro 2 du Saint-Siège, le cardinal Pietro Parolin. Les bourses européennes ont ouvert en hausse ce matin, portées par la perspective d'un accord de paix entre les États-Unis et l'Iran. Hier soir, Donald Trump a jugé très possible d'y parvenir après la a tenu de très bonnes discussions dans les dernières 24 heures. De sources pakistanaises, l'accord négocié par les deux camps tiendrait en une seule page. Pour commencer, il formaliserait la fin des hostilités et serait suivi de négociations sur le détroit d'Ormuz, les sanctions américaines contre Téhéran, enfin le programme nucléaire iranien. Nouvelles frappes israéliennes au Liban, des frappes ciblées. L'une d'elles a tué hier soir un important chef du Hezbollah dans la banlieue sud de Beyrouth, selon une source proche de la formation pro-iranienne. Pays voisin de l'Iran, l'Irak est l'un des plus affectés économiquement par la guerre. Le tourisme religieux, source de revenus, est très affecté, notamment à Kerbala, ville sainte de l'islam chiite qui vit au rythme des pèlerinages. Ilyes Atia.
Mohammed ne se fera pas avoir une deuxième fois. En juin dernier, ce ressortissant du Bahreïn est allé en pèlerinage à Karbala pendant la première offensive israélo-américaine contre l'Iran.
Je suis resté coincé sur place. Je n'ai pas pu rentrer chez moi. C'est un des problèmes auxquels on peut faire face en temps de guerre. J'ai dû prendre 3 ou 4 billets. Tous sont tombés à l'eau. J'arrivais à l'aéroport et on me disait « Il n'y a pas d'avion, l'espace aérien est fermé et le billet est annulé. »
L'année dernière, Karbala a accueilli en un mois 21 millions de pèlerins venus commémorer la fin du deuil de l'imam Hussein, petit-fils du prophète Mohammed, dont le martyr est considéré comme un événement fondateur du chiisme. Malgré la réouverture récente de l'espace aérien fermé pendant 40 jours au début du conflit, les hôtels sont loin d'afficher complet. Razer Al-Aqla dirige l'hôtel Emir Al-Nahl.
La guerre a affecté le tourisme religieux, surtout dans notre ville sainte de Karbala, parce que nous avons énormément de touristes iraniens et des pays du Golfe.
Le pèlerinage de Karbala ne battra peut-être pas le record de touristes étrangers de l'année passée, mais l'économie locale pourrait se maintenir grâce aux Irakiens eux-mêmes, principaux pèlerins à visiter la ville.
Reportage signé Ilyes Atia du service international de la rédaction. Également dans l'actualité de ce jeudi, des élections locales au Royaume-Uni où l'impopulaire Premier ministre Keir Starmer est menacé d'un vote sanction. Plus de 5000 sièges d'élus locaux sont à renouveler en Angleterre et les électeurs votent pour renouveler les parlements gallois et écossais. Les sondages annoncent un recul du Labour qui pourrait perdre jusqu'à 2000 sièges en Angleterre et surtout la majorité au parlement gallois. À suivre aussi le score du parti anti-immigration Réforme UK au moment où culmine le nombre de migrants clandestins arrivés par la Manche. Cela fait à peine 6 mois que Bill White est ambassadeur des États-Unis à Bruxelles et de nouveau il crée la polémique. Il vient d'accuser encore la Belgique d'antisémitisme, secondé cette fois par le ministre israélien des Affaires étrangères. Bill White s'était déjà tiré les foudres du gouvernement belge en février. Aujourd'hui il persiste et signe. Pierre Benazé en direct de Bruxelles, bonjour.
Bonjour.
Les tensions refont surface au moment où la Belgique pousse ses partenaires européens à soutenir la Palestine. Mais Pierre, tout commence par une affaire de circoncision à Anvers. Expliquez-nous.
Oui, effectivement, Anvers, où le parquet demande un procès contre 2 circonciseurs juifs, des praticiens traditionnels connus sous le nom de Mohalim, inculpés, je cite, pour coups et blessures volontaires avec préméditation à l'encontre de mineurs et exercice illégal de la médecine. Il n'en fallait pas plus pour l'ambassadeur américain Bill White. En février, il avait déjà accusé la justice anversoise d'enquête antisémite. Il avait écopé d'une convocation au ministère des Affaires étrangères. Mais il affirme aujourd'hui, je cite, l'administration Trump condamne cette action judiciaire et dénonce la passivité du gouvernement belge. Le ministre des Affaires étrangères israélien embraye le pas. Gideon Saar accuse la Belgique de s'attaquer à une pierre angulaire de la foi juive. Paradoxalement, la procédure est née d'une plainte d'un rabbin anversois qui accuse les Mohalim d'être à l'origine de nombreuses contaminations. Le ministre belge des Affaires étrangères estime déplacés et caricaturaux les propos de l'ambassadeur et du ministre israélien, mais ils surviennent surtout dans un contexte où, au sein de l'Union européenne, la Belgique, avec l'Espagne, l'Irlande et 4 autres pays, défend l'idée de sanctions commerciales à l'encontre d'Israël.
Merci Pierre Benazé en direct de Bruxelles. Le navire de croisière touché par un foyer d'antivirus fait route vers Tenerife dans l'archipel espagnol des Canaries où il est attendu samedi. Ce matin, il a dépassé l'archipel du Cap Vert. L'évacuation des passagers est prévue en début de semaine prochaine. 23 nationalités différentes sont à bord. Les pays de lieu prendront en charge leurs ressortissants. L'évacuation des autres est toujours en préparation. La Russie annonce avoir abattu 347 drones ukrainiens depuis hier soir. Elle n'écarte pas d'éventuelles frappes de représailles si l'Ukraine venait à perturber samedi la fête de la victoire contre l'Allemagne nazie. Revenons maintenant sur la mort de Ted Turner, figure des médias américains, décédé à l'âge de 87 ans, au terme d'une longue maladie, personnage flamboyant et provocateur. Il aura contribué à bouleverser le paysage médiatique de son temps, créant en 1980 CNN, première chaîne d'information en continu. Ted Turner était alors considéré comme un visionnaire. Olivier Roger.
This news service will be called the Cable News Network.
Le 23 avril 1979, en conférence de presse, Ted Turner dévoile son projet de chaîne d'information en continu. Un an plus tard, le 1er juin 1980, Cable News Network est lancé. À l'époque, l'héritier d'une entreprise de panneaux publicitaires a déjà constitué un groupe de médias télévisés, tout d'abord dans sa ville d'Atlanta en Géorgie, puis en étendant son réseau à l'ensemble du pays. Il parie d'emblée sur les technologies balbutiantes que sont alors le câble et le satellite. Mais le véritable coup de génie, ce fut CNN, première chaîne d'information en continu, un pari gagnant dans une Amérique qui commence à être accro aux informations. CNN retransmet en direct en 1986 l'explosion de la navette spatiale Challenger, véritable drame national aux USA, puis la chaîne s'impose au monde lors de la première guerre du Golfe en 1991. Ces journalistes sont les seuls reporters occidentaux présents à Bagdad, en Irak. CNN contribue alors a donné une lecture américaine des bouleversements du monde, ce qui lui sera reproché. Et à sa façon, Ted Turner aura révolutionné la manière d'appréhender l'information, tout comme il aura révélé la puissance des images et du direct.
C'était Olivier Roger. Enfin, football, Paris Saint-Germain contre Arsenal. C'est donc l'affiche de la finale de la Ligue des Champions le 30 mai à Budapest. Le Paris Saint-Germain, tenant du titre, partira favori. Hier soir à l'Allianz Arena de Munich, il a tenu en échec le Bayern de Munich. Score final 1 partout et 6 buts à 5 au terme des deux matchs de la demi-finale. Emmanuel Bastide, bonjour, c'est à vous.
Bonjour Gilles Moreau, merci à vous. Prochain journal dans 50 minutes.
même incroyable qu'aujourd'hui tout le monde écoute la radio et combien de gens savent finalement que ce droit et ce choix qu'ils ont, il est né de luttes, de gens militants qui à un moment donné ont été à l'encontre du droit pour acquérir plus de droits.
Vous écoutez Principe Actif.
Vous écoutez Principe Actif à Évreux 102.4. Dans le sud de l'Eure, 95.9. Principe Actif, le mix des cultures.
Oh, poulet bicyclette, Usain Bolt du poulailler. Tu ne m'attraperas jamais.
Fini chercher pour la maman qui attend nous pour boire un petit coup et puis famille à Osea.
Qui ça?
Fini chercher pour la maman qui attend nous pour boire un petit coup et puis famille à Osea.
Les aigus de la montre ne font que tourner où oh. Et jamais tu ne pourras m'attraper où oh. La mère de ta mère a déjà essayé hey. Et le père de ton père a toujours échoué Petite maman, tu plantes la graine, tu veux me manger. Petite maman, tu plantes la graine, tu vas échouer au bout. Oh, tu ne m'attraperas jamais. Ah, petite maman, tu plantes la graine, tu veux me manger. Petite maman, tu plantes la graine, tu vas échouer au bout. Oh, tu ne m'attraperas jamais. Tu veux pas m'attraper.
Fini chercher pour la maman qui attend nous pour boire un petit coup et puis famille à Osea.
Qui ça?
Fini chercher pour la maman qui attend nous pour boire un petit coup et puis famille à Osea.
Qui ça?
Fini chercher pour la maman qui attend nous pour boire un petit coup et puis famille à Osea.
Qui ça?
Fini chercher pour la maman qui attend nous pour boire un petit coup et puis famille à Osea.
Petite maman, tu plantes la graine, tu veux me manger. Petite maman, tu plantes la graine, tu vas échouer.
Ah, tu ne m'attraperas jamais.
Parce qu'on m'appelle je suis strong chicken.
Maman
hein?
Antigo.
Antigo. Jamais.
Maman
le goût.
Antigo.
Antigo.
Ah.
Jamais.
Antigo.
Jamais.
Osea.
Jamais.
Antigo.
Tu peux pas m'attraper.
C'est la belle nuit de Noël. La neige étend son manteau blanc et les yeux levés vers le ciel à genoux, les petits enfants.
Dring, oh. Dring, on vient sonner les cloches. Bling, bling, on vient vider les poches. On s'occupe de milliards mioches, on touche pas une allocs. On se tape des milliards moches, on touche pas une breloque. Je crois peut-être que Père Noël, c'est un job assez chic. On bosse une fois par an, on touche même pas les ascétiques. Conditions de vie précaires, on se galère en Laponie. La mère Noël, c'est pas cachou, plutôt cachou la jaunie. Chaque 25 décembre, il faut que je descende. Il faut que je défende ma place dans le milieu. Des imposteurs, c'est important qu'ici c'est moi le gros bonnet. Ma barbe et ma factrice, celle qui sur tes